Nous retrouvons Philippe-Harry Blachette pour cette troisième entretien. Tout à l'heure, vous nous parliez de votre travail à Radio France et je voudrais vous demander quelle est votre relation plus personnelle à ce média qu'est la radio. L'écoutez-vous? Est-ce une nécessité quotidienne ou un plaisir occasionnel? Et quelle longueur d'onde a votre préférence?
Longueur d'onde. Oui, bien sûr, évidemment, je l'écoute beaucoup moins qu'avant parce que quand on travaille à la radio, on doit l'écouter. Hein. Pour moi, l'écoute de la radio, c'est quelque chose de très, très, très précis. Hein. C'est une ouverture à l'imaginaire que ne nous donne pas du tout l'image à la télévision. Ça, c'est clair. Hein. Donc, ben voilà. Je pense que à la radio, il faut soigner ça. Hein. Et c'est vrai que France Culture, quand même, reste encore une chaîne qui est vraiment très intéressante pour ça. Quoi. Ça, c'est clair. Hein. C'est vrai que on peut développer des nouveaux sons à la radio. Hein. D'ailleurs, quand on écoute certains ateliers radiophoniques ou bien même des fictions à France Culture et sur d'autres radios, il y en a aussi. Ou je sais pas, même des émissions de France Inter avec Mermet, par exemple. Vous voyez, Mermet soigne beaucoup le son. Quand il fait ses émissions, c'est pas des émissions pour le son, mais il soigne énormément les choses. On sent qu'il a une conscience de ça. Hein. Donc, moi, je crois qu'il faut développer ça d'une manière très particulière à la radio. Hein. Et ça rejoint pour moi la musique, quoi, parce que l'écoute de la musique, c'est aussi comme on pourrait écouter la radio. Quelque part, voilà. C'est une écoute qui est très dirigée, très sélective. En fait, les oreilles sont des hommes sont assez sélectives, surtout celles des musiciens. C'est terrible parce que vous savez, moi, quand je suis chez moi et que j'ai une radio à côté, hein, et que je fais autre chose, il y a une oreille qui est sur ce que je fais. Et puis une oreille qui capte là, et je suis obligé de couper parce que ça, voilà. Donc, pour moi, l'écoute doit être vraiment sélective. Hein. Et ça, c'est aussi un apprentissage quelque part. Hein. Je pense que ça devrait faire partie des travaux de l'école primaire et secondaire.
Tout à fait. Je vous rejoins tout à fait. Justement, je voulais vous demander, qu'écoutez-vous au quotidien dans votre environnement, les sons, les musiques, puisque vous parliez que vous étiez sensible à cette écoute, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui touche vos oreilles, quels sons, quelles voix, quel environnement?
Bon, moi j'écoute beaucoup de musique contemporaine parce que il faut que je me mette au courant.
Par exemple, hein. Des noms.
Des noms, ben je crains que vous ne les connaissiez pas parce que ce sont des compositeurs. D'abord, les compositeurs m'envoient beaucoup de projets. Hein, alors c'est sous forme de partition ou sous forme d'enregistrement déjà, etc. Donc moi j'écoute beaucoup. Ça c'est mon métier. Ça c'est vraiment mon métier de faire ça. Puis j'écoute des choses pour le plaisir. Voilà. Et alors, ben écoutez, j'écoute beaucoup de musique, hein, des musiques très très variées. J'écoute pas mal de musique classique. Hein. Moi, j'adore écouter du Brahms, du Beethoven. Vous voyez, ça vraiment, je me fais des soirées Beethoven. Hein, c'est absolument. Et Monteverdi. Voilà. Monteverdi, pour moi, c'est un musicien. Enfin, voyez, je vous disais tout à l'heure que je vibrais devant un monochrome de Yves Klein. Quand j'écoute un madrigal de Monteverdi, c'est la même chose. C'est exactement la même impression. Hein. Et tout ça, ça se rejoint. Et pourtant, c'est pas du tout le même siècle. Hein. Voilà. Moi, c'est vrai que l'écoute, c'est d'une importance capitale. Hein. Alors, c'est vrai que quand on se balade dans la forêt, c'est pas mal aussi d'écouter ce qui se passe. C'est vrai. Hein. Et vous savez, j'étais dans un pays là récemment extrêmement bruyant, mais épouvantable. Quelque chose d'épouvantable, vraiment. Des klaxons partout, des vrombissements de bikes, de... C'était épouvantable. Au bout de 10 minutes, je ne pouvais plus dans la rue. Et puis, je me suis raisonné. Ça, c'est ici des questions de... Vous voyez, l'écoute, c'est très important de pouvoir la dominer, cette écoute. Je me suis raisonné, je me dis... Tu es là, tu es dans la rue, il faut que tu traverses d'abord, traverser ce flot qui arrive à toute vitesse avec autant de bruit. Déjà, il faut le faire. Hein. Et je me suis raisonné et je me suis dit, voilà, ben, il faut essayer de fermer un peu les oreilles, hein, et de passer à travers tout ça. Et au bout de 8 jours, je me suis habitué et j'étais beaucoup plus à l'aise.
Donc vous avez mis en pratique ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire votre écoute sélective.
Oui, absolument. Et aussi, je veux dire, il faut travailler aussi avec le cerveau, parce que c'est pas évident, hein, on a beau se dire ça, mais il faut se forcer. Hein. Mais vous savez, la musique est une discipline où on est obligé d'avoir une rigueur d'enfer.
Mais là, ce dont vous parliez tient plus de la pollution sonore, tout de même.
Oui. Oui, bien sûr, mais c'est le même processus au niveau, vous voyez, ce que j'ai voulu m'orienter sur quelque chose à laquelle je devais participer, puisque j'étais là. Voilà. Et pour pas que ça me fasse trop de mal, quoi. Voilà.
On dit que les nouvelles technologies peuvent aussi faire mal aux oreilles. Et pourtant, elles sont très utilisées maintenant dans le développement des musiques actuelles et de la musique contemporaine. Oui. Qu'en pensez-vous ?
Que du bien. Mais oui, parce que, si vous voulez, le rapport de la musique avec l'électronique, c'est une révolution, complètement. Hein. C'est une révolution, pourquoi ? Parce que il y a des ingénieurs, musiciens, il y a des compositeurs qui ont travaillé beaucoup la question des logiciels, etc., etc. Il y a eu des organismes comme l'IRCAM qui se sont développés. Il y a eu des studios de création, il y en a 6 en France, qui font des recherches, etc., et qui travaillent aussi sur les nouvelles technologies et le rapport de ces nouvelles technologies avec les instruments. Hein. Et moi, c'est ce qui m'intéresse.
Et la diffusion.
Et la diffusion, bien sûr. Oui. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aborder les nouvelles technologies avec des compositeurs qui sont capables d'écrire pour instruments et ordinateurs. En définitive, c'est très curieux parce que c'est très important la composition sur ordinateur. Hein, parce qu'un compositeur, il fait une partition sur l'ordinateur. Hein, il fait ce qu'on appelle un patch, hein, qui est une véritable partition, hein, qui est imprimée sur l'ordinateur. Hein. Ensuite, ce qui est très intéressant aussi dans les nouvelles technologies, c'est le temps réel. C'est-à-dire, le temps réel, c'est avant on mettait une bande et puis l'instrumentiste jouait sur la bande. Hein. Là maintenant, avec l'ordinateur, ça se passe comme ça, en temps réel. Il y a un instrumentiste ou plusieurs. Hein. Le logiciel de transformation du son, Max MSP en gros, enregistre tout ce que les instrumentistes font. Donc ça rentre dans la bécane, hein, et restitue tout ce qui a été enregistré avec les transformations du son que le compositeur a décidé. Et au moment où le compositeur a décidé.
C'est bien de la musique vivante.
C'est fabuleux, non ? Alors ça m'intéresse beaucoup. Et avec Sillage, on fait beaucoup ça. On a fait un disque même.
Que reste-t-il à inventer en matière de création sonore et musicale?
Que reste-t-il à inventer?
On utilise l'ordinateur, qui est l'instrument, qui est une nouvelle technologie d'aujourd'hui.
Oui.
Vers quoi peut-on aller après ça pour continuer de créer de la matière sonore et musicale?
Déjà, on a un peu de temps pour dominer tout ça. Hein. Ça, il faut quand même le savoir. Mais ça va quand même relativement vite. Hein, hein. Oui, moi, je sais pas. Moi, je me posais la question il y a 30 ans. De ça, au moment où tout d'un coup les choses sont arrivées, les enregistrements, le développement de l'électroacoustique, je me disais mais oh là là, mais en tant qu'instrumentiste, alors comment est-ce que je vais pouvoir toujours gagner ma vie parce que toutes ces musiques vont remplacer les autres? Eh ben pas du tout. Pas du tout, au contraire. Je veux dire, il y a une dynamique qui a fait que toutes les nouvelles technologies ont renforcé la musique faite par les musiciens en direct. Vous voyez. Alors moi, je pense, vous voyez, que je suis pas inquiet. Hein. Je pense pas qu'on va arriver à des systèmes musicaux robotisés.
Non.
Ah non, ben, mais, peut-être.
Non, mais d'autres formes de création, d'autres sons, d'autres machines à proposer du son, voyez?
Oui. Oui, mais...
Je pense à Pierre-Henri notamment, qui a aussi créé des machines sonores incroyables et qui continue de créer aussi, voyez? Je pense que même des personnes qui ont tout un parcours dans la musique contemporaine ou continuent de créer des nouveaux sons.
Ah oui, bien sûr. Mais pas seulement avec l'ordinateur, hein. Moi, je suis d'accord avec vous, hein. Il y a des gens qui font qui fabriquent des instruments, etc. Pierre-Henri, oui. Alors, Pierre-Henri, si vous voulez, Pierre-Henri, quand même, c'est l'ancienne électroacoustique, quoi. Mais c'est magnifique, hein. Mais on est dans un monde que je dirais révolu, quoi. Mais c'est très intéressant sur le plan historique, bien sûr. Hein. Non, je pense que on va vers des folies, mais je ne sais pas lesquelles. On peut, c'est très difficile de voir l'avenir parce que ça va tellement vite aussi. Il suffit que quelqu'un ou qu'un groupe d'ingénieurs développe une machine insensée, et puis on va se trouver avec d'autres propositions qui vont être folles. C'est passionnant cette période, hein, hein. Mais c'est très difficile de vencer tout ça. Même les compositeurs vous diront oh là là, moi je sais pas, je sais ce que je veux faire moi, mais qu'est-ce qui va se passer après, j'en sais rien, hein.
Donc tout à l'heure nous parlions de d'art contemporain et d'œuvres contemporaines que nous avons ici sous les yeux, et donc quand vous regardez une œuvre, vous faites silence, je pense, et je voulais vous demander pour terminer, quelle place occupe le silence dans votre vie de musicien, de chef d'orchestre, de violoniste? En a-t-elle seulement une?
Oui, parce que le silence, c'est aussi de la musique. Et donc, ça fait partie intégrante de la musique. Et j'ai un peu de mal, quelquefois, quand il y a des œuvres qui sont sans aucun silence, du début jusqu'à la fin. Hein. Vous écoutez des musiques de Steve Reich, par exemple, il n'y a aucun silence. Pendant 30 minutes, voilà. Alors là, je trouve ça un peu dur, bon. Voilà, hein. C'est-à-dire que c'est très important. En plus, moi, j'aime beaucoup un compositeur américain qui s'appelle John Cage, qui a travaillé beaucoup sur le silence. Yves Klein aussi, ils se sont rapprochés à un moment donné, sans se connaître d'ailleurs, hein. Oui, pour moi, le silence, c'est quelque chose de très important, et en même temps, je me dis qu'il n'existe pas. Parce que le silence ne peut pas exister, hein. Vous entendez toujours quelque chose. Et John Cage a fait une expérience. Il est rentré dans une chambre sourde, dans un laboratoire aux USA, et il s'est dit, là, je vais retrouver le silence, là, dans une chambre sourde. On n'entend rien dans une chambre sourde. Il est resté 5 minutes, il a entendu son cœur battre, ses artères vibrer, tout ça. Il est sorti, il n'en pouvait plus. Et il a dit, en sortant de cette chambre, le silence n'existe pas. Alors c'est intéressant cette notion de silence qu'on aime et puis qu'on quelquefois qu'on désire, hein, dans la vie. Et puis en même temps de se dire qu'il n'existe pas.
Pour conclure sur le silence et l'écoute, partagez-vous la phrase célèbre de France Culture qui nous dit que le monde appartient à ceux qui l'écoutent.
Ah oui, tout à fait. Magnifique, magnifique maxime de France Culture.
Et,
mais absolument, il faudrait aussi qu'ils la mettent en application le plus souvent possible.
Merci Philippe.